Bonsoir. Nous aurons avec plaisir un nouveau jeudi de l'ordre. Merci à toutes et à tous d'être présents. Ce soir, nous saluons deux intervenants prestigieux qui traitent dans leur domaine de dépistage. Au cours de la première partie, dans le cadre de Mars Bleu, Jean-François Seitz, professeur émérite en hépato-gastro-entérologie, service d'oncologie digestive de l'hôpital de la Timone, président du conseil scientifique pour le dépistage du cancer colorectal, centre régional de dépistage des cancers Sud-PACA, vous invite en un flash info à parler à vos patients du dépistage du cancer colorectal. Dans la deuxième partie, Brigitte Chabrol, professeure de pédiatrie à la faculté, médecin responsable du centre régional de dépistage néonatal PACA Corse, élu responsable de la plateforme d'expertise maladies rares de la PHM, nous éclaire sur les maladies rares en pédiatrie, objet de la conférence de ce soir. Posez vos questions, elles seront traitées à la fin. Avant de commencer, je crois utile de vous rappeler le dernier jeudi de l'ordre sur le fonctionnement du Conseil, expliqué par notre amie Aurore Baudouin, à voir sur notre site ou sur notre chaîne YouTube, bien utile en pensant aux prochaines élections ordinales du 30 avril. Merci à notre présidente, à tous les membres du Conseil. Merci à tous ceux qui contribuent à cette communication. La parole est à Jean-François Seitz.
Merci Marie-Dominique Métra et toute l'équipe du CDOM 13, de l'équipe de communication, de m'avoir cette année invité à vous faire une brève intervention en introduction de Brigitte Chabrol sur le cancer colorectal, puisque c'est le mois de mars, donc c'est le moment de se mobiliser. Et parlez-en à vos patients. Pourquoi ? Parce que même en période d'épidémie que nous avons connue depuis 2 ans, même en temps de guerre, comme c'est le cas malheureusement, le cancer colorectal reste une priorité de santé publique. C'est le deuxième cancer le plus meurtrier en France. Il tue chaque année 9000 hommes, ce qui est accessoire, mais surtout 8000 femmes. Et c'est un décès toutes les demi-heures. Et la plupart de ces décès sont évitables. C'est pour ça, c'est le but de ce combat d'information. Alors, quelques idées reçues qu'il faut éviter, c'est le dépistage ne se résume pas à la coloscopie. La supériorité du test immunologique fécal, le FIT, sur l'ancien test hémoculte est encore trop mal connue du grand public, en tout cas. Et ce FIT, il détecte aussi et surtout les lésions précancéreuses que sont les adénomes, les polypes adénomateux. C'est grâce à cette séquence adénome cancer qui va prendre une dizaine d'années qu'on a le moyen d'éviter l'apparition du cancer colorectal grâce à l'exérèse endoscopique des polypes. Rappelons-nous, pour les plus jeunes d'entre nous, que dans les années 70, les accidents de la route tuaient autant que le cancer colorectal actuellement. On a pris toutes les mesures qui ont permis de faire dégringoler cette mortalité routière de près de 18 000 décès à moins de 3 000 actuellement. Et on pourrait faire à peu près la même chose en ce qui concerne le cancer colorectal. En effet, la stratégie, elle est très simple. À partir de 50 ans, les hommes et les femmes doivent faire un test immunologique fécal tous les 2 ans. Et si ce test est positif, bien sûr, il faut faire une coloscopie. Alors, cette stratégie s'adresse aux 80% de cancers du côlon sporadiques. Bien sûr, pour les 15% de cancers avec un environnement familial, des antécédents familiaux, ou pour les maladies génétiques, il y a des stratégies un petit peu plus agressives. Donc, bien sûr, si vous avez des antécédents personnels ou familiales d'adénome ou de cancer du côlon survenu avant 65 ans, si vous avez vous-même une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, une ERCH ou un Crohn, là, vous avez un risque qui est évalué au double du risque moyen et on vous conseille d'aller directement à la case coloscopie. Si vous appartenez à une famille de polypose adénomateuse familiale ou de syndrome de Lynch, HNPCC, bien entendu, là, c'est la coloscopie et même la chromocoloscopie qui est indiquée après qu'une consultation oncogénétique ait évalué quel membre de la fratrie est porteur de la mutation et donc développera la maladie. Alors, Pour 80% des assurés, il s'agit de faire un test très simple, planter un petit bâtonnet dans une selle. Tout ça est très bien expliqué dans l'enveloppe bleue. Et ce test est positif dans 4% des cas. Donc là, la coloscopie, qui malheureusement n'est pas faite par tout le monde dans ces cas-là, il n'y a que 88% de coloscopie faite en pratique. Mais cette coloscopie va retrouver dans 50% des cas un adénome. Deux tiers de ces adénomes sont des adénomes avancés qu'on a vu sur la diapo précédente, c'est-à-dire ces adénomes qui vont dégénérer du vivant du patient. Et puis, il y a 7 à 8% de cancers. Mais ces cancers sont dans deux tiers des cas des stades 0 ou 1, donc des cancers intramuqueux ou invasifs, mais au stade 1, qui sont généralement guéris par la polypectomie, par l'ablation du polype cancéreux, ou si nécessaire, par une colectomie sous cellio avec curage, qui sera curative quasiment dans 100% des cas et sans traitement complémentaire. Je rappelle qu'en dehors du dépistage, il n'y a que 20% des cancers diagnostiqués devant des symptômes qui appartiennent au stade 0 ou 1. Et 25% des malades présentent des métastases viscérales, situation dans laquelle la guérison n'est pas assurée, bien sûr, et en tout cas, elle nécessite un parcours de soins assez lourd. Donc voilà, vous voyez que le test sélectionne des assurés qui sont à haut risque d'avoir une néoplasie, le plus souvent bénigne, du côlon, qui sera faite au cours de la coloscopie. Alors, malgré ses performances, le test immunologique fécal reste sous-utilisé en France. Il détecte 2,5 fois plus de cancers que l'hémocult, il détecte près de 4 fois plus d'adénomes avancés que l'hémocult. Il est plus simple puisqu'il y a un seul prélèvement de sel à faire. Avec l'hémocultes, il fallait tartiner des petites tablettes. Il fallait faire en tout 6 prélèvements sur 3 jours. Ce test est plus fiable avec une lecture automatisée. Et non seulement il fait baisser, comme l'hémocultes, la mortalité par cancer colorectal, mais dans les études avec une dizaine d'années de recul, on note une baisse de l'incidence qui est franche grâce à l'exérèse de tous ces adénomes avancés. Alors, malgré ces performances, le taux de participation en France reste faible. Il est autour d'un assuré sur 3. Ça avait été dit lors de l'annonce du plan décennal contre le cancer par Emmanuel Macron en février l'année dernière, il y a un an. Donc c'est une situation un peu inexplicable parce que vous voyez que chez nos voisins européens, aux Pays-Bas, 71% de participation, etc. En Finlande, 68%. Même les Italiens, 47%. Ils sont bien meilleurs que nous. Et vous voyez sur cette diapositive que pourtant, l'efficacité, elle dépend de la participation, puisque sur cette diapo d'un groupe californien, vous voyez que lorsque la participation en rouge a commencé à monter après 2006, où on a commencé à utiliser le FIT aux États-Unis, donc 10 ans avant nous, quand même 9 ans avant nous, eh bien, la participation est montée progressivement. Au final, actuellement, 83% des assurés de cette région sont couverts par un dépistage. C'est le dépistage multimodal, comme le disent les Américains. Soit vous avez fait une coloscopie dans les 10 ans, il y a 33% des assurés. Soit vous avez fait un FIT, là c'est tous les ans qu'ils le font et pas tous les 2 ans. 48% d'assurés qui l'ont fait. Soit vous avez fait une coloscopie courte tous les 5 ans, 1% des assurés. Au total, 83% de couverture et une chute de la mortalité par cancer colorectal. Voilà ce qu'il faudrait qu'on arrive à obtenir. Alors, la pandémie, ça a été un gros problème, vous le savez, et pour le dépistage, vous voyez que lors du premier confinement, la poste était à l'arrêt, les tests restaient dans les centres de tri. Au bout de 6 jours, ils ne sont plus analysables. Donc, le taux non analysable est monté en flèche et on a arrêté les invitations. Bon, on les a rattrapés après sur le deuxième semestre de l'année 2020. Les autres vagues ont eu beaucoup moins d'incidence sur le nombre de tests lus. Et je dirais même que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu une très mauvaise année qui a été 2019 parce qu'il y avait une pénurie de tests. Pendant 6 mois, on n'a plus eu de tests à cause de, vous vous rappelez, de cet imbroglio juridique avec l'appel, le référé du laboratoire qui n'avait pas été choisi, etc. Donc ça a été un peu catastrophique. En 2020, en jaune, vous avez le nombre de tests lus en région PACA qui est, qui a rejoint le taux de 2018. Donc c'était une année, on est revenu à une année normale malgré la pandémie. Et 2021, on a augmenté de 16% le nombre de tests lus. Ce qui fait qu'on vient d'avoir les chiffres par Santé publique France, les chiffres nationaux. On a nos chiffres en PACA. Vous voyez que par rapport à la période 2019-2020, qui était impactée par cette pénurie de tests en 2019, où en PACA, on était à moins de 25% de participation, on est passé maintenant à 31,5%. On a pris 7 points. Donc en 2021, malgré tous les problèmes, ben, les assurés ont joué le jeu, les médecins aussi. Et grâce à ça, on a augmenté la participation. On s'est un peu rapproché du taux national. Vous savez qu'on est... on est à peu près 5% en dessous parce que en fait on est plus pauvre en région PACA et en Bouches-du-Rhône que la moyenne nationale. Vous voyez que le taux de pauvreté en Bouches-du-Rhône est de 15,6%, en PACA il est de 15% et la moyenne nationale c'est 11,8%. Donc on a une pauvreté plus importante qui explique peut-être en partie notre plus faible participation. Alors, sur les coloscopies, le Covid a eu un impact, bien sûr, puisque les coloscopies en 2020 ont baissé de 18%. Et cette baisse, elle a porté aussi sur les ablations de polypes sous coloscopie, sur les coloscopies thérapeutiques. Il y a eu une baisse de 19%. Cette baisse n'a pas été rattrapée en 2021. Donc, ça veut dire que probablement... malheureusement, on notera une augmentation, j'espère qu'elle sera légère, dans le futur, de l'incidence du colorectal qui risque d'un peu repartir. Il n'y a pas eu de diminution significative des coloscopies pour diagnostic de cancer, ça c'est heureux. Il y a eu une baisse très discrète des colectomies pour cancer de 2% qui a été rattrapée très vite en 2021. Donc on peut espérer quand même que sur la prise en charge thérapeutique, il n'y a pas eu de souci. Alors, pour ce qui concerne la pauvreté, je vous fais une annonce qui est un protocole qui s'appelle DECODE, le dépistage du cancer colorectal en zone défavorisée. Nous avons des quartiers de Marseille qui le sont, on le sait, et où le taux de participation est faible, où le niveau de compréhension des dépliants, des explications médicales est altéré par le manque de culture. Donc c'est la littératie en santé qui est une action qui vise, par la formation de certains médecins généralistes volontaires, et l'étude veut montrer qu'on améliore la participation par cette formation très simple qui prend deux fois une heure. Les médecins qui seraient volontaires peuvent se manifester auprès de Marie-Anne Durand qui travaille à l'INSERM et qui est la porteuse de ce projet. Les inclusions ont commencé en octobre 2021. Le bénéfice de participer pour un de nos confrères à cette étude, à cet essai multicentrique, c'est déjà de faire de la recherche et c'est intéressant. Il y a une rémunération accessoirement de 25 euros par patient et une rémunération pour la formation. Voilà. Et pour terminer, je dirais que les perspectives, d'abord, elles s'inscrivent dans les objectifs qui ont été tracés dans la stratégie décennale contre le cancer. C'est faciliter l'accès aux tests. Donc, c'est la commande en ligne qui a été mise en place par la CNAM et qui est active depuis le 1er mars 2022. Pour commander son test en ligne, un assuré doit avoir sa lettre d'invitation sur laquelle il y a un numéro d'invitation. S'il n'a pas ce numéro, il ne peut pas commander le test. Il y a un auto-questionnaire où on dit « j'ai pas de RCH, j'ai pas d'antécédent de cancer, etc. Je ne suis pas dans un groupe à aller à la coloscopie directement ». Donc ça, c'est actif. Après, il y a le projet qui a été annoncé aussi de distribution dans les officines par les pharmaciens, après toujours un questionnaire, bien sûr, comme le font les médecins dans leur cabinet. Et cette mise en place se fera peut-être fin 2022. Voilà, il y aura aussi après des expérimentations chez les plus jeunes entre 45 et 49 ans ou chez les plus âgés entre 75 et 79 ans. Voilà, il y a un programme de formation qui va être remis en place avec l'URPS, je pense, dans les semaines qui viennent. Et enfin, ben, il faut communiquer, et c'est ce qu'on fait en mars. On communique auprès du grand public. Alors, on communique sur la prévention, essentiellement, parce que le test est une arme de prévention. La nutrition est une arme aussi de prévention, ainsi que l'activité physique. Et cette activité physique, ben, elle est symbolisée par la course que nous organisons dimanche prochain au Parc Borély pour, montrer que on réduit nos risques de cette façon. Voilà, ben je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions écrites, j'y répondrai bien volontiers. Je pense que c'est prévu aussi de le faire. Hein. Voilà, merci beaucoup. Et je vais passer la parole donc à Brigitte Chabrol qui va passer à un sujet un petit peu différent, mais où le dépistage intervient là aussi.
Donc, à mon tour de remercier le Conseil de l'Ordre des Bouches-du-Rhône, Marie-Dominique Maitra, de cette invitation ce soir à vous parler d'un sujet qui m'est cher, celui des maladies rares en général et en pédiatrie de façon plus particulière. Et voir un petit peu, on va essayer de faire un panorama quand même rapide, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, de voir d'où on vient, parce que c'est aussi toujours important de savoir d'où on vient, et puis où on va aller dans les années qui viennent, avec certainement une révolution, avec des traitements innovants qui sont en train de tout bouleverser. Alors, juste un petit mot sur les maladies rares. C'est vrai qu'en médecine, souvent, on dit ben, c'est une maladie rare, donc c'est une maladie d'expert, donc c'est une maladie qui ne nous concerne pas. C'est tout à fait faux, parce que ces maladies sont rares, effectivement, mais en fait, elles sont très nombreuses. Il y a plus de 7000 maladies, et donc les malades sont fréquents. Et on estime qu'une personne sur 20 en France est concernée par une maladie rare, soit 3 millions de personnes. Et en fait, si on va plus loin, et surtout on pense à l'ensemble des aidants, je pense aux familles, à la fratrie, à tous ceux qui vont entourer ces malades, on va dire que plus de 10 millions de personnes sont concernées, ce qui fait que tout médecin sur le territoire sera confronté à la prise en charge d'une personne porteuse de maladies rares, ou en tout cas de quelqu'un qui accompagne une personne porteuse de maladies rares. Ensuite, 80% sont d'origine génétique, et actuellement, moins de 200 traitements spécifiques, mais ce chiffre augmente chaque année. Et c'est une priorité de santé publique. Alors, ces maladies rares, donc il y a eu énormément de réflexions. Il faut penser au lobbying, dans le bon sens du terme, des associations qui ont dit, il y a maintenant presque 20 ans, certes, on a une maladie rare, mais personne ne s'occupe de nous, personne ne nous connaît. Et donc, il y a un premier plan maladie rare qui a été édicté en 2005, avec, à l'époque, 131 centres de référence qui ont été labellisés, 500 centres de compétences. Mais bien sûr, ce n'était pas suffisant. Et donc, il y a eu un deuxième plan maladie rare, avec plus de labellisation, et surtout la création de filières de santé maladies rares avec 23 filières qui ont été labellisées. Donc ça, c'était en 2011-2014. L'idée des filières, c'était que sur l'ensemble du territoire, les centres de référence étaient, sont d'ailleurs, c'est pas du tout à l'imparfait, sont affiliés donc dans le cadre d'une filière et qu'il y aura des protocoles communs, des protocoles de dépistage, de diagnostic et de traitement communs pour qu'il y ait une équité des soins sur l'ensemble du territoire. Voilà donc l'action des filières qui sont constituées des centres de référence, des centres de compétences, des laboratoires et les plateformes de diagnostic, de tous les professionnels, sans oublier le médico-social et des équipes de recherche bien sûr et des associations de patients. Alors, donc, au final, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, il y a 23 filières maladies rares, 387 centres de référence maladies rares et 1773 centres de compétences. C'est le dernier plan, donc 2018-2022. À la fin de l'année, il y a une nouvelle labellisation, donc pour un plan 2022-2026. Donc, vous voyez ici donc, les filières qui ont été initialement labellisées donc, sur la PHM, la filière des maladies héréditaires du métabolisme pendant 4 ans, qui est actuellement reprise par l'hôpital Necker, et la filière Filnomus, qui a été portée par le professeur Pouget, qui est actuellement portée par le professeur Attarian. Puis les centres de compétences, et ici vous voyez, donc moi je suis centre de compétences, de référence coordonnateur, et vous voyez qu'il y a différents centres qui dépendent donc de ce centre de coordination et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important, puisque grâce à cette finalement cette répartition sur le territoire, on va tous travailler de la même façon. Et je pense qu'en 15 ans, c'est vraiment ce qu'on peut dire, c'est cette cohérence dans notre façon de travailler, dans les prises en charge, dans les diagnostics, ce qui fait qu'un patient, les patients sont de plus en plus mobiles, va pouvoir retrouver aussi un centre de référence ou de compétences correspondant à la maladie rare qu'il présente. Alors, sur Marseille, où on en est, il y a 93 équipes médico-soignantes spécialisées, 20 centres de référence, 73 centres de compétences. Vous voyez que à peu près toutes les maladies chroniques, maladies rares sont représentées sur la PHM, avec donc le grand groupe des maladies neurologiques, des maladies cardiovasculaires, digestives, hématologiques, auto-immunes, inflammatoires, dermatologiques, endocriniennes, maladies du métabolisme et puis les maladies respiratoires, rénales, malformatives, bref, toutes sortes de pathologies donc, pour lesquelles on va trouver, le patient peut trouver une réponse. Et sur ces 93 équipes, il y a 34 centres pédiatriques. Et donc au 1er février 2022, étaient suivis à la PHM 35 682 patients porteurs de maladies rares. Donc ce que je vous disais, c'est pas rare en fait. 35 000 patients, c'est énorme. Bien sûr, par exemple, moi, dans mon centre, il y a des patients, je ne vois un seul enfant tous les 3-4 ans avec cette maladie. Mais l'ensemble fait que, vu le nombre de maladies, il y a énormément de patients et 38% d'enfants. Alors, pour la pédiatrie, il faut savoir aussi que sur la région PACA, sur l'ensemble des enfants, nous prenons en charge 70% des enfants porteurs de maladies rares sur l'hôpital d'enfants de la Timone. Et 30% sont pris en charge ailleurs, c'est-à-dire au CHU de Nice. Donc là aussi, un très, très gros, une très grosse représentation pédiatrique. Donc, ces centres de référence, ils ont quelle mission ? Ben, une mission de coordination avec tous les centres de compétences, des réseaux de correspondants, des structures hospitalières, les professionnels du médico-social. Et là, il y a eu vraiment un très, très gros travail. Par exemple, nous, on a fait un très gros travail avec les IME dans le cadre du handicap, de la déficience intellectuelle, de l'épilepsie. Il y a eu un travail aussi extrêmement important. Les associations de malades participent à ces activités. Puis, il y a la mission d'expertise. Et là, on a copié quelque part le plan cancer avec les réunions de concertation pluridisciplinaire, donc les RCP, donc selon la définition de la HAS, et qui permettent l'évaluation de la qualité des soins, de ce qu'on peut apporter. Et qui, là aussi, même si, il faut le dire, hein, au départ, on n'a pas toujours cette culture et on se dit, on va faire une RCP, il faut suivre des recommandations, des choses qui sont parfois un peu lourdes à mettre en place. Mais en fait, on gagne beaucoup de temps par tout ce que ça peut nous apporter dans les discussions des malades. Et vous verrez, je vais vous parler d'une maladie avec une thérapie génique. Tout est fait, toutes les décisions sont prises en RCP, sont jamais prises seules face à un malade. Donc ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, donc les PNDS, qui sont disponibles sur le site de la HAS. Il y en a plus d'une centaine actuellement et c'est le rôle des centres de référence d'en publier. Je vous montrerai un exemple. L'épidémiologie avec la banque de données maladies rares, c'est comme ça que je peux vous dire qu'il y a 35 000 patients porteurs de maladies rares à la PHM. Et donc la procédure qualité, et puis le recours, la prise en charge, bien sûr, pluridisciplinaire. Un centre de référence ne peut jamais fonctionner seul, on va le revoir. Et la recherche, l'enseignement, la formation, donc des missions multiples. Ici, juste pour illustrer mes propos, donc le centre maladies héréditaires du métabolisme, donc qui sont des maladies génétiques qui touchent une des voies métaboliques. Il y a plus de 500 maladies identifiées à ce jour. Et vous voyez, les malades sont répartis de cette façon, avec des maladies qui vont toucher le métabolisme énergétique, des molécules complexes telles que les maladies du lysosome ou d'intoxication comme les maladies des acides aminés. Donc, on suit à peu près 1500 patients, enfants et adultes. Et ça, c'est une notion extrêmement importante aussi parce que beaucoup de centres étaient développés en pédiatrie, mais arrivés à l'âge adulte, il y avait quand même ce gros problème de la transition. Et vraiment, il y a cet effort qui s'est fait ces dernières années pour pouvoir orienter l'enfant au sein d'une équipe adulte qui est également référente pour son problème, sa problématique. Donc, la mission d'expertise, c'est des maladies où il faut des régimes extrêmement spécialisés. Donc, les diététiciennes sont tout à fait en un rôle fondamental, pivot. Et puis, il y a des traitements extrêmement spécifiques, des enfants qui ont un déficit enzymatique, donc d'origine génétique, qui ne sont pas capables de fabriquer cette enzyme. On va leur apporter, c'est un enzyme qui va être fabriqué par génie génétique. On va l'apporter par voie intraveineuse le plus souvent, parfois par voie intracérébro-ventriculaire, avec mise en place ce qu'on appelle un réservoir au niveau ventriculaire et une perfusion tous les 15 jours, mais aussi les greffes de foie, de rein, de cœur, de cellules souches hématopoïétiques qui vont permettre d'apporter cette enzyme déficiente. Donc vous voyez des traitements qui peuvent être extrêmement lourds, extrêmement techniques et qui nécessitent des équipes très spécialisées. Il y a aussi tout le travail multidisciplinaire avec l'ensemble, et c'est l'intérêt d'être au sein de l'hôpital d'enfants. Je crois que tout on va solliciter pratiquement, il n'y a pas un étage qui ne soit pas sollicité en permanence, un plateau technique important et ne pas oublier la prise en charge médico-sociale, et on parle d'enfants, donc l'accompagnement, la scolarité. Voilà représenter un petit peu tous ceux avec qui on va travailler, mais je pense que tout l'ensemble des centres références pourraient montrer exactement la même diapo. Donc vous voyez, toutes les spécialités, toutes les surspécialités pédiatriques vont être représentées avec aussi, vous le voyez, entre centres de référence, on peut avoir des liens extrêmement étroits. Donc voilà, les PNDS, bon ça je vais passer. Et les réalisations, je voulais insister sur deux ou trois points. Premièrement, donc ces fameux PNDS, et ça je crois que c'est le message à faire passer, c'est lorsque un patient se présente en disant « j'ai une maladie rare, personne ne connaît », il faut se mettre sur le site de la HAS. En général, lors de l'annonce du diagnostic, on envoie le PNDS au médecin traitant, au médecin référent de l'enfant, pour que ce médecin traitant ait toutes les informations. Ils sont mis à jour très régulièrement. Vous voyez celui-là qu'on a donc rédigé dans le service sur une maladie très rare, hein, acidurie glutarique type 1. Mais c'est un enfant qui est suivi, qui a un médecin traitant, et ce médecin peut avoir tous les renseignements sur ce PNDS. Ils sont tous en ligne et d'ouverture libre. Ici, vous avez, donc, pour parler aussi un petit peu de ce qui évolue, j'allais dire ça, c'est la médecine telle que je l'ai commencée, moi, il y a plus de 30 ans, donc un enfant qui avait un trouble du neurodéveloppement, un handicap, on se demandait si c'était une cause centrale, périphérique, est-ce que c'est le cerveau, est-ce que c'est le nerf, c'est le muscle, et puis le traitement était pratiquement toujours symptomatique et on n'arrivait pas à avoir de traitement spécifique. Ben, 30 ans plus tard, voilà où on est, vous voyez tout ce qui est entouré de vert, c'est des traitements spécifiques qui apparaissent, et sans être une optimiste inconditionnelle, je pense que dans 10 ans, toutes les parties, tous les noms rouges, peut-être les anomalies génétiques, ça va être plus compliqué, les malformations cérébrales aussi, mais en tout cas, on pourra mettre de plus en plus de verres et traiter de façon efficiente ces enfants. Et je vais donc soit, je vous l'ai déjà dit, par des enzymes, soit par des molécules très complexes, qu'on appelle des molécules chaperones, qui permettent de prendre l'enzyme et l'apporter dans la bonne cellule, au bon endroit, soit par de la thérapie génique. Et ça, c'est des choses qu'on fait maintenant depuis plus d'un an. Le seul message à retenir de ce schéma, hein, qui vous montre que ça y est, la neurologie pédiatrique et les enfants porteurs de maladies neurologiques rares, ce n'est plus une attitude entre guillemets, qu'on aurait pu dire attentiste ou en tout cas palliative. C'est vraiment une attitude curative, mais ce traitement curatif ne peut fonctionner que s'il est mis en place très tôt et très précocement. Et donc, on reverra le problème du dépistage. Il faut vraiment, dès qu'il y a un doute, transférer cet enfant le plus rapidement possible. On voit des enfants arriver encore trop tard et c'est une perte de chance pour eux quand on met en place un traitement aussi spécifique qu'une thérapie génique. Mais 2, 3, 4 mois plus tard pour un petit nourrisson, c'est déjà trop tard. Alors, l'exemple de l'amyotrophie spinale infantile, hein, vous avez dû en entendre parler, ça a été extrêmement médiatisé, il y a eu le Téléthon, et c'est vraiment le modèle qu'on aimerait avoir pour toutes les maladies. Avant 2017, annoncé à des parents qui ont leur petit enfant très hypotonique, il a une amyotrophie spinale type 1, c'est annoncé un décès dans les 2 ans qui suivent avec des soins uniquement palliatifs. Depuis 2017, on a des molécules et ces enfants ont une vie totalement transformée. Alors, ils ne sont pas guéris pour autant. Ils ont besoin de soins parfois lourds. Mais ces enfants vivent, sont avec nous et il faut les accompagner. Et il faut que l'ensemble des soignants soient au courant de ces évolutions pour les envoyer très tôt, dès qu'il y a une suspicion. Premièrement, qu'on puisse les traiter et puis qu'on les accompagne tous ensemble. Alors, les innovations thérapeutiques, donc dans les maladies rares de l'enfant, c'est un vrai enjeu éthique. On est entre ce qu'on appelle l'optimisme thérapeutique, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre le traitement, bien définir les objectifs, que l'équilibre risque-bénéfice soit bien compris et qu'on a un espoir positif vers une amélioration, mais on ne peut pas encore parler de guérison. Peut-être qu'on pourra le faire dans quelques années, mais on ne peut pas encore en 2022. Et il faut opposer ça à une attitude qu'on appelle d'optimisme irréaliste ou utopiste, avec des attentes totalement disproportionnées, des risques extrêmement mal évalués des traitements, et le traitement vu comme une panacée qui entraîne des faux espoirs, et avec des patients, mais parfois des soignants aussi, en attente de miracles. Et c'est pas en médecine qu'on trouvera des miracles, mais par contre des progrès qui peuvent être spectaculaires. Tout ça fait qu'on va changer notre annonce diagnostique. On ne dit pas du tout, et moi je ne dis pas du tout la même chose maintenant que ce que je disais il n'y a que 10 ans, voire 5 ans en arrière. L'annonce diagnostique, il faudra bien sûr qu'elle soit faite par un médecin qui connaît la maladie, mais qui connaît surtout la prise en charge actuelle. Et donc maintenant, elle va prendre en compte un traitement spécifique. La prise en charge, le pronostic, très difficile. Sans traitement, on connaissait bien l'histoire naturelle. Là, on est en train de la modifier. Quand des parents me disent « mais est-ce que mon enfant de 4 mois qui a une amyotrophie spinale, qui va avoir une thérapie génique, comment il sera à l'âge de 10-20 ans ?» On ne peut pas répondre puisque ce traitement n'a que 3 ans de recul. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. On va vraiment construire cette histoire naturelle avec l'enfant et sa famille et voir au fur et à mesure de quel type de prise en charge il va avoir besoin. Et puis, bien sûr, il y a le conseil génétique. Et donc, cette annonce, elle est fondamentale. Alors, il y a eu beaucoup de publications depuis très longtemps sur, en pédiatrie sur l'annonce diagnostique, le retentissement chez les parents, chez les adultes qui entourent l'enfant. Très peu de choses sur l'enfant. Et on s'est rendu compte que ces enfants, finalement, qu'on voit tout petits, quand les diagnostics sont faits très tôt, qui vont venir dans les centres de référence régulièrement, qu'on connaît très bien, ils nous connaissent très bien. Pour autant, est-ce qu'ils ont eu vraiment une annonce, une information sur leur maladie ? On se rend compte qu'en fait, pas du tout. Et on a été interpellés par plusieurs adolescents qui nous ont dit qu'on n'était pas bon là-dessus. Donc, ils ont eu raison et on a essayé de travailler. Donc, voilà ici un petit livret qu'on a fabriqué dans le service. Donc, c'est un petit garçon qui arrive, qui a une myopathie Duchenne et le parcours de soins de ce petit garçon. Donc, il arrive à l'hôpital, il voit les médecins, il va... On explique qu'on va faire une biopsie musculaire, qu'on va faire des prises de sang et on lui explique pourquoi il ne marche pas très bien. Et puis après, il va rentrer chez lui et ses parents auront le diagnostic et on pourra et on va mettre en place tous les soins nécessaires. Mais ce petit enfant, même de 5-6 ans, il est tout à fait capable de comprendre. Bien sûr, on lui dit ce qu'il est capable à son âge, à 5 ans, 6 ans, de comprendre que s'il ne joue pas bien au foot, c'est parce qu'il a une maladie musculaire. Et il va se servir de ce livret pour communiquer avec ses copains d'école, avec ses cousins, avec sa famille. Et on a fait tout un travail avec une étude spécifique. Et il y a eu il a été assez plébiscité. Et maintenant, il est distribué dans toutes les consultations de France. Un deuxième travail qui a été fait, mais plus donc par une psychologue du service, Floriane Pouban, que j'ai dirigée dans son master d'éthique, donc sur la réannonce diagnostique de l'enfant dans les maladies rares et chroniques. Et l'idée, c'est que les ados nous interpellent et nous disent « mais qu'est-ce que je vais faire ? Vous ne m'avez jamais parlé. Un enfant, un ado un jour m'a demandé s'il allait mourir de sa maladie. » Enfin, des choses qui peuvent aller très loin. Et donc, il y a eu toute une enquête et vous voyez ici quelques phrases, donc des verbatims recueillis. Par exemple, « comment ça ? Comment je le sais ? Je l'ai toujours su. » C'est chelou comme question. On entend les adultes parler et ensuite, j'ai posé des questions. Et puis, ce qu'il nous dit aussi, qui reflète bien notre niveau de consultation et doit nous interpeller tous les médecins, par habitude, les adultes fonctionnent comme ça, ils parlent entre eux, et nous, on demande si on fait du sport et si ça va à l'école. Et c'est vrai que très souvent, c'est ce qu'on demande aux enfants, alors que c'est eux qui sont porteurs de la maladie et qui ressentent complètement la maladie. Voilà. Donc là aussi, une autre jeune fille qui nous dit, moi, je voudrais faire comme toutes les jeunes filles de mon âge, aller au collège l'année prochaine et tout, mais vu que je ne sais rien sur ma maladie, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire après. Voilà, j'espère qu'elle va partir. Les médicaments devaient me rendre plus grande. C'est une maladie avec une atteinte osseuse importante. Mais il ne marche pas. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette interpellation. Et ça, je crois que c'est quelque chose. On dit que, et là aussi, le plan cancer nous avait bien expliqué l'information à donner aux patients. Mais il y a l'information. Il ne faut pas oublier que les enfants, même petits, les ados, ce sont des patients et qui doivent recevoir des informations qui leur soient tout à fait personnalisées. Après, on a fait un autre, du coup, on a travaillé là-dessus, un petit livret enfant pour expliquer ce que c'était qu'un centre de référence, le nombre de personnes qu'ils allaient rencontrer, le rôle de chacun, le domaine de compétences de chacun, ce qui n'est pas toujours évident. Et tout ça, on l'a fait avec des associations de patients. Et vous voyez ici des réalisations du service. Et puis, on a eu l'honneur quand même, Arthur, qui est plébiscité actuellement, le jeune Arthur Baucher, qui revient avec toutes ses médailles de Pékin, et ben déjà en 2018, il était venu nous montrer, parce qu'il est suivi dans le service, et il était venu nous apporter ses premières médailles, donc qui étaient des médailles d'argent, et bientôt, je ne les ai pas encore, je l'ai eu récemment, et bientôt, il nous apportera ses médailles d'or, ça il a promis de refaire une après-midi dans le service, et je ne vous dis pas la joie et les étoiles qu'il y avait, on avait invité d'autres enfants qui étaient là, et en haut, vous voyez qu'il est allé à domicile voir un enfant qui a un handicap très sévère. Voilà, sinon c'est d'autres choses. Donc je vous ai dit que c'était des maladies avec des régimes très spécifiques. Donc là, vous voyez la cuisine thérapeutique qu'on a à l'hôpital où on va faire de l'éducation thérapeutique. Il ne faut pas l'oublier, ça, puisque leur traitement, c'est un régime et c'est les parents, les mères comme les pères qui viennent apprendre à faire de tout ça. Et vous voyez qu'ils nous apprennent aussi beaucoup. Vous voyez, là, c'était un goûter de Noël avec des petits gâteaux, des gâteaux arabes et qui ont été tous faits sans protéines et avec des produits très spécifiques. Et c'était très bon. Et puis ici, c'était l'anniversaire d'une petite fille. On lui avait fait un gâteau aussi très spécifique. Et là, ils m'ont forcé à boire le milkshake à la framboise sans protéines. C'était un petit peu particulier, mais je l'ai bu et voilà, c'était très sympa. Voilà, une équipe, c'est bien sûr, c'est pas un médecin seul, c'est pas un service seul, c'est une équipe pluridisciplinaire. On est très nombreux, c'est vrai, mais c'est indispensable si on veut couvrir tous les besoins et pouvoir répondre aussi. Donc, il faut jamais oublier les psychologues, assistantes sociales, secrétaires, infirmières de coordination. On parle beaucoup actuellement des infirmières de pratique avancée de coordination. Je peux vous dire que c'est indispensable. Un médecin seul, c'est pas un couteau suisse, il peut pas tout faire. Donc là, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une équipe et travailler tous en équipe et c'est comme ça qu'on peut avancer. Alors, pour dire que le monde de la pédiatrie, c'est un petit peu, pour un enfant qui a une maladie chronique, c'est à peu près, on va dire, même si c'est galère, l'école, le projet personnalisé de scolarisation, la MDPH et compagnie, même la prise en charge médicale, c'est pas toujours évident. Mais alors, quand ils arrivent dans le monde des adultes, là, on devient un peu plus dans le labyrinthe. Et c'est difficile pour le jeune adulte, la famille. C'est vrai qu'on a des liens souvent... important, hein, qui ça fait plus de 20 ans qu'on s'occupe de ces patients, entre 18 et 20 ans, ils vont passer dans les services adultes, mais de plus en plus, là aussi, grande évolution, et avec une organisation qui se fait, et des correspondants à l'âge adulte, enfin des services adultes qui sont très importantes, et dernière nouveauté, c'est l'appart, donc un espace de transition qui est pour tous les enfants. Il y a à peu près 400 ados qui sont concernés par an. Donc tous les ados de plus de 14 ans qui ont des problèmes médicaux ou chirurgicaux et qui viendront dans cet espace, seront reçus dans cet espace. Ben, vous voyez qu'Arthur était venu le visiter, il était ravi. Donc dans cet espace très particulier où on peut consulter avec les médecins d'adultes et passer, j'allais dire, le flambeau. Alors, tout ça, donc, on va dire que c'est un peu le parcours de soins tel qu'il peut se dessiner actuellement pour un enfant porteur de maladies rares. Mais j'allais dire, là, c'est ce qui se dessine actuellement avec des enfants dont le diagnostic est fait, soit en période anténatale, soit en période néonatale très précoce, soit un peu plus tard dans la vie, mais sur des signes cliniques. Le dépistage, c'est autre chose. Donc, le dépistage, c'est quelque chose. C'est un enfant qui va bien, par définition, on n'a pas de signe clinique, et pourtant il est porteur d'une maladie rare, d'une maladie grave, d'une maladie qui peut entraîner un handicap, qui peut entraîner le décès. Alors cette année, c'est les 50 ans du dépistage. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, depuis 72, 35 millions de nouveau-nés ont bénéficié d'un ou plusieurs dépistages. Et à peu près, les chiffres ne sont pas tout à fait, je pense qu'on peut dire maintenant, 25 000 enfants malades ont été repérés et traités, soit un enfant sur 1300. Ce qui veut dire qu'on a évité 25 000 maladies graves, handicaps ou même décès, puisque certaines amènent à un décès très précoce. Alors la première des maladies, c'est la phénylcétonurie, c'est ce fameux test de Guthrie, on ne va pas revenir là-dessus, mais qui a été Robert Guthrie est un homme absolument génial, qui a été le premier à repérer que si on prenait en charge ces enfants très très tôt, ils n'auraient plus ni retard mental, ni autisme, ni épilepsie. Et actuellement, donc on est 50 ans plus tard, il y a des hommes et des femmes phénylcétonuriques, voire même des grands-parents phénylcétonuriques et qui vont parfaitement bien. Donc vraiment, ça montre justement l'efficacité de ce dépistage. Alors d'autres maladies, après, vous voyez le calendrier, jusqu'à la petite dernière, en 2021, le déficit en NCAD, ce qui fait qu'on a 6 maladies qui peuvent être dépistées au niveau biologique et le dépistage de la surdité également. Très rapidement pour dire qu'actuellement, donc il y a, depuis 2018, il y a un centre de coordination de dépistage et vous le voyez donc réparti ici. Bon, ça ne passe pas la flèche, mais peu importe. Vous voyez qu'il y a 17 centres de régionaux de dépistage néonatal, dont un qui est sur la Timone et on reçoit à peu près... alors, ça a un peu baissé la natalité les deux dernières années, mais on est à peu près à 68 000 cartons par an. C'est toute la région PACA, la région Corse et également, il y a Monaco, Wallis et Futuna, mais ça, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Et on s'est fait piquer la Polynésie par les Parisiens. Voilà, mais donc on essaye de travailler au mieux. Le circuit du carton tout bébé, donc kiné, on va proposer à 3 jours. Et en fait, avec le Covid, on a vu, puisque vous savez que les sorties de maternité ont été plus précoces, et on a vu que finalement 48 heures, c'était possible. Ça nous a pris beaucoup de choses quand même, le Covid. Donc on va faire ce petite marque au talon, on le met sur ce carton, le carton est envoyé, il est traité, on a les résultats en 7 jours et le diagnostic en 10 jours en moyenne, par exemple dans la phénylcétonurie. Donc en 2020, on peut dire qu'en France, on a dépisté 98 phénylcétonuries, 37 hyperplasies des surrénales, 557 drépanocytoses, 292 hypothyroïdies congénitales et 122 mucoviscidoses. Donc c'est vraiment, en termes de santé publique, je pense que c'est l'un des meilleurs plans qui a été fait. Et comme toujours, ce qui marche, on n'en parle pas. Mais c'est quelque chose d'absolument formidable et il faut se battre, bien sûr, pour que ça continue. Et vous allez le voir, non seulement ça va continuer, mais ça va augmenter. Fin 2022, début 2023, 7 maladies supplémentaires. Toujours pareil, des maladies héréditaires du métabolisme où un régime va permettre de transformer la vie de l'enfant et éviter un handicap lourd. Une autre maladie qui devrait être mise en place très rapidement, c'est le déficit immunitaire combiné sévère, les bébés bulles. Donc, dépistage porté par Alain Fischer et qui est une action aussi absolument remarquable. Et puis, il va y avoir d'autres choses. Et ça, je voulais juste m'arrêter 2 minutes. Je crois qu'il me reste encore quelques minutes. Ce dépistage néonatal, jusqu'à présent, dans les textes de loi, il s'est défini, bien sûr, c'est au journal officiel et défini par la loi. Jusqu'à présent, c'était uniquement des examens de biologie médicale, donc biochimie des examens de biochimie ou des examens de l'hémoglobine. Et en juillet 2020, au sein de la loi de bioéthique, dont on a parlé de beaucoup d'autres choses, mais il y a autre chose que la PMA dans la révision de la loi de bioéthique, il y a la possibilité dans le dépistage néonatal de recourir à des examens de caractéristiques génétiques. Et c'est la première fois donc, que c'est inscrit. La France était un petit peu en retard pour tout ça. C'est fait, par exemple, en Belgique, c'est fait depuis plus longtemps. Et là, maintenant, ça va être possible. Donc, on va avoir quand même des problématiques. Quelles sont les maladies qu'on va dépister ? Puisqu'on est, si c'est fait, je vous ai parlé déjà de l'amyotrophie spinale, bien sûr, donc c'est l'une des premières probablement qui va être dépistée en 2023 ou 2024. Il y a un traitement qui existe, mais on a quand même une incertitude sur le long terme, ce qu'on peut nous répondre. Mais à l'époque, M. Guthrie, dans les phénylcétonuries, il n'était pas capable de dire qu'il y aurait des parents, des enfants qui deviendraient des parents, qui travailleraient, voire des grands-parents. Il ne le savait pas, donc il a pris ce pari, c'est un pari qui a réussi. Voilà, donc l'histoire, c'est sûr qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Après, il faut réfléchir quand même, là, quand je parle de traitements innovants, c'est des traitements avec des coûts très élevés. On l'a vu, qui sont souvent non curatifs totalement, qui augmentent le niveau de soins et des hospitalisations. Et là, on se bat actuellement au niveau des hôpitaux pour avoir vraiment des lits de thérapie spécifiques, parce que c'est une charge pour faire une thérapie génique à un enfant. Une injection dure à peu près une heure. Mais à mon avis, il faut 10 personnels en permanence à côté, avec le circuit, le pharmacien. Voilà. Donc, il faut tenir compte de tout ça et il faut qu'on soit capable de mettre en place tout ça au sein de nos hôpitaux. Quand je dis coût très élevé, une thérapie génique pour une amyotrophie spinale, c'est 2 millions d'euros par enfant. Mais d'autres thérapies, c'est 500 000 euros par an et vont se faire à vie. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans des coûts extrêmement, extrêmement élevés. Et donc la question, finalement, on a vu que ces traitements marchaient, d'autant plus qu'ils étaient faits très tôt, avant qu'il y ait des dégâts liés à la maladie. Donc l'idée, c'est dès la naissance, dépister donc ces enfants pour pouvoir les traiter plus tôt. Ceci étant, on va tomber sur des maladies qu'on va dépister qui peut-être ne commenceront qu'à l'âge de 10 ans, 20 ans, voire 40 ans. Exemple de la maladie de Pompe. Donc vous voyez, à chaque étape, il y a une réflexion pour pouvoir répondre de la façon la plus précise et surtout au plus grand bénéfice des malades. Voilà, donc les Américains, le College of Medical Genetics se posent les mêmes questions. Hein. Ils disent bien qu'il faut les faire rapidement. Voilà, il y a différentes maladies, donc on pourra dépister. Et ce dépistage donc, qui augmente. Et vous voyez la France qui était pionnière, eh ben, elle est en marron. Là, on n'est pas bon. Hein. On n'est pas... Voilà, donc on a vu qu'il y avait 7 autres maladies qui arrivaient. Donc on va en avoir 13. Et puis je pense qu'avec les tests génétiques qu'on va mettre en place, probablement dans les 5 ans, on va vraiment remonter le système. Il faut faire attention aussi à ces courbes parce que vous savez qu'il y a des endroits où c'est pas tout le pays, mais certaines régions, parce qu'il y a une autonomie aussi de la prise en charge de la santé. Or, en France, ce dépistage doit rester totalement proposé systématiquement à tous les enfants, quels qu'ils soient, et le traitement proposé à tous les enfants, quels qu'ils soient, qui ont bénéficié du dépistage, ce qui n'est pas le cas partout. Pour terminer, juste un petit mot sur la dernière réalisation à la PHM, donc la plateforme d'expertise maladies rares, donc qui a été labellisée en 2019, qui permet d'avoir une structure transversale entre les différents centres, donc qui permet des actions de communication, qui favorise les actions transversales, qui permet aussi de travailler sur ce qu'on appelle l'errance diagnostique, voire répondre à certains appels à projets, travailler avec l'incrémentation de registres et puis également voir au niveau de l'international, j'ai pas parlé des réseaux européens, mais qui sont bien sûr extrêmement importants. Voilà, et les deux axes sur lesquels on travaille, c'est le parcours patient et un soutien au fonctionnement, à la valorisation des centres maladies rares. Et puis, le prochain projet, ça va être la création d'un espace, là aussi on prend exemple sur le cancer, d'un espace type ERI pour les patients porteurs de maladies rares avec des informations qu'ils peuvent trouver. Voilà, alors pour terminer, je vous ai fait juste un panorama un petit peu large de là où on était. Bien sûr que si vous me laissiez le micro, je pourrais vous parler encore des heures et des heures, mais ce n'est pas l'objectif. Juste, je voulais terminer aussi quand même vraiment par ce chiffre de 3 millions de malades, mais 10 millions de personnes concernées. Et là, je crois que c'est aussi ces dernières années, ces personnes concernées qu'on peut appeler aidants. Les aidants, ce n'est pas uniquement pour les personnes âgées, c'est également pour les familles où il y a quelqu'un porteur d'une maladie chronique, d'un handicap. Et chez les enfants, parfois les aidants sont les parents et bien reconnaître le statut d'aidant. Et il me semble que c'est extrêmement important que l'ensemble des médecins qui connaissent bien la famille, qui connaissent bien le domicile, soient au courant de tout ce qu'on peut proposer actuellement. Et en particulier, donc, il y a des fiches repères qui ont été éditées en février 2022, toutes les aides possibles, parce qu'il en existe. Et souvent, les patients nous disent « on ne fait rien pour moi, il n'y a rien qui existe ». Et en fait, il y a des choses, mais il faut savoir les proposer, le relais, le soutien à domicile, les vacances. Hein, de plus en plus, nous, on propose des séjours de répit. On travaille avec des SSR qui vont prendre en charge les enfants. J'ai vu une famille la semaine dernière qui a un enfant qui a une maladie particulièrement sévère. Il va passer 10 jours au SSR et pendant ce temps, ils amènent les deux autres enfants en vacances scolaires, au ski, comme tous les autres enfants. Donc ça, je crois que c'est des choses extrêmement importantes. Ne pas oublier non plus tous les aidants auprès de ces enfants et de ces adultes porteurs de maladies rares. Merci beaucoup pour votre attention et je suis prête à répondre à toutes les questions que vous voulez.
Merci beaucoup pour ces exposés brillants, clairs et complets. Il n'y a pas de questions ce soir en direct. Peut-être bien, parce que l'exposé a été tellement clair, tellement passionné, qu'on va devoir en rester là et parler entre nous.
Bon, bah écoutez, il n'y a pas de problème.
Vous vous demandez de revenir.
Pas de problème.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.